Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Et si la vie, soumise au destin et à la fatalité, n'était qu'un battement d'ailes de colibri? Et si l'essentiel n'était que le chemin à prendre vers ce qui n'aurait pas besoin d'être appelé bonheur, mais simplement ressenti comme tel? Et si cela passait par l'amour vécu simplement, comme une douce tristesse qu'il s'appellerait joie? Et si pour cela il fallait au passé le temps de se dissoudre? Et enfin, si entrer en écriture permettait de débusquer une souffrance, cherchant une délivrance afin d'exorciser un passé sans amour? Telles sont peut-être les pistes du bonheur que nous propose Gabriel Sandoval dans l'émotion et le frémissement des mots d'une pépite poétique et solaire au titre empreint de désarroi. Et maintenant, j'en fais quoi de tout cet amour? Paru en 2021 aux éditions La Serna. Bonjour Gabriel Sandoval.
Buenos días. Bonjour Philippe.
Merci, mille merci d'être à Radio Présence dans l'émission Parole d'auteur. Je salue nos fidèles auditeurs et je leur rappelle par la même occasion que cette émission peut se retrouver sur notre site et sur les grandes plateformes numériques. Gabriel Sandoval, et maintenant, vous voudriez en faire quoi de cet entretien?
Le partager.
Alors, on va essayer de partager. Je me suis naturellement renseigné un petit peu sur ce que vous aviez fait. Et j'ai recherché des témoignages de gens que vous connaissez. Et il y a une phrase qui revient souvent, qui est un petit peu modifiée suivant les auteurs, c'est toujours de l'emphase, toujours des héros, toujours du cinéma et toujours du taureau. Est-ce exact?
Toujours de l'emphase, toujours du cinéma. C'est vrai, je suis passionné de. J'ai toujours été passionné de cinéma. Ça a jalonné ma vie. Je me suis abreuvé de films. Même à un âge où je n'y comprenais rien. Je suis allé voir des films où, quand je sortais de là, je me dis, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je comprends pas, mais ça m'a bouleversé. Qu'est-ce que c'est beau? Quelle narration, quoi? Quelle beauté de... Quel réalisateur, quoi?
C'est l'histoire, le cinéma, c'est l'histoire qui vous porte?
C'est l'histoire, c'est les acteurs, c'est la mise en scène, c'est le discours, l'histoire, ouais. L'histoire racontée, quoi. Et des histoires parfois improbables, des histoires de tous les jours, mais qui sont extraordinaires.
Et manifestement, ce goût pour les histoires, ce goût pour le cinéma, c'est quelque chose qui vous a fait plonger dans la littérature?
Je crois que c'est d'écouter et de partager avec les gens, de recevoir, d'échanger, qui m'a donné aussi envie de raconter ces histoires. Et la littérature s'est très vite présentée à moi comme presque comme une nécessité. Et j'ai aimé raconter des histoires et ce qui est fabuleux en littérature, c'est de pouvoir ouvrir ses fenêtres et parfois même à travers un autre personnage, à travers une autre personne, raconter, voir combien les cases dans lesquelles on se croyait ne sont pas forcément celles du moment présent. Et ça, j'ai toujours... Quelle belle chose de pouvoir quelque part endosser une autre vie.
Alors nous allons y revenir en détail hein, sur cette vos intentions et cette motivation pour l'écriture. Alors je voudrais que l'on parle un petit peu de vous pour que les auditeurs vous connaissent davantage. Vous êtes né en Espagne, en Castille, dans la ville de Léon. Et puis, vous êtes arrivé en France. Vous pouvez nous raconter?
Alors, je suis né à Léon, C'est une ville de la province de Castilla y León. Alors les Leoneses aujourd'hui disent on est de León, on n'est pas castillan, on est Leones. Je suis né, oui, je suis arrivé en France, mes parents ont quitté l'Espagne, sont partis et sont arrivés à Toulouse dans les années 62. Ils ont fui l'Espagne aussi, ils ont quitté l'Espagne parce qu'il n'y avait pas de, ben, il y avait pas de travail. Ils font partie de cette immigration, une immigration économique. Il faut penser qu'en 1960, entre 60 et 63, il y a eu plus de 400 000 Espagnols qui sont venus en France. Ils font partie de cette deuxième vague migratoire. Il y a eu celle forcément de 36, qui est la cause de la retirada, et puis en 62, qui est une migration économique. Quand mes parents sont venus, ils voulaient chercher du travail. Ici. Et puis, plus tard revenir, quand même. Donc, on est arrivé ici. Mon père a trouvé du travail et ma mère aussi. Ça a été des années difficiles. Des années difficiles. Alors, curieusement, je veux dire pour eux, que nous, enfants, on avait ce bonheur aussi de découvrir un autre pays, une autre culture, une autre langue. Et ça a été très très vite, on s'est très vite acclimaté, on va dire. On s'est très vite intégré.
Dans d'autres conditions, vous aviez déclaré, là j'avais noté, et vous aviez insisté sur le fait que vous n'aviez pas rencontré de racisme ni de marginalisation, et vous aviez même parlé à l'époque qu'il existait un désir d'accueil.
Oui, c'est plus qu'un désir d'accueil, c'était vraiment... On nous a accueillis, oui. On nous a accueillis et il n'y a pas eu de rejet, ni de... Il n'y avait pas des ghettos, on va dire, espagnols ou arabes ou portugais. Effectivement, les communautés... Il y avait des quartiers fortement imprégnés de culture hispanique ou d'autres... Mais il n'y a pas eu de racisme, quoi, de marginalisation. Todo el mundo vivía juntos. Tout le monde vivait ensemble, quoi. Et il y avait une entraide, et une joie de vivre ensemble.
C'est très, très intéressant de recueillir ce témoignage compte tenu de l'actualité ambiante. Donc, vous intégrez avec votre famille facilement. Vous faites des études d'espagnol, puisque je crois que vous passez un doctorat d'espagnol.
Oui, j'ai eu un doctorat d'espagnol à l'université à l'université de Toulouse Le Mirail, à l'époque. Et après, je me suis destiné à l'enseignement d'espagnol.
Qui vous a passionné ?
Qui m'a habité, carrément.
Voilà. Et alors, rupture. Vous avez fait des études qui vous ont plu. Vous avez une profession qui vous plaît. Et d'un seul coup, vous changez de direction. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que... J'ai toujours désiré être en accord avec ma vie, avec ma passion, et avec mes désirs de ma soif de culture, ma soif de musique, ma soif de beauté, tout ce qui me semblait être tout ce qui me semblait donner un sens à ma vie.
Et alors, très paradoxalement, par rapport à cette volonté, à ce ressenti, ce changement de direction se fait par le fait que vous rentrez à la FNAC et que vous êtes étiqueteur à la FNAC.
Oui, oui. Alors ça, c'est... La FNAC, cette époque, hein, cette FNAC, ce lieu de... qui était la FNAC dans les années 60, dans les années 80. C'était pour moi un lieu magique. C'était l'antre de la culture dans lequel j'allais et auquel je ne pouvais que regarder, je ne pouvais que feuilleter les livres, qu'écouter la musique, puisqu'on pouvait écouter des albums. Et je me dis, waouh, c'est là où il faut que j'aille. Et j'ai demandé à entrer à la FNAC, et on m'a dit, non mais, Gabriel, non, on peut pas, hein, on peut pas aujourd'hui, en plus avec les diplômes que tu as, tu peux pas, il n'y a pas de poste là, musculement. Et je connaissais à l'époque le directeur, le responsable de la FNAC de l'époque, et qui m'a dit, bah, écoute, si tu veux, il y a un poste d'étiqueteur. J'ai dit, hombre, bien sûr, claro. Et je suis rentré. J'ai été rentré à la FNAC et oui, j'étiquetais les à l'époque c'était les CD, hein, encore les CD. Et donc j'étiquetais les CD, je les mettais en rayon. Mais déjà j'avais un rapport fabuleux quoi, avec la culture quoi. C'était pour moi enrichissant. Ça peut paraître et puis le contact avec les gens. Parler aussi de avec les clients qu'il y avait. Et donc je suis resté 12 ans.
12 ans,
ouais. Ouais. Après, on va dire, j'ai gravi les échelons. J'étais responsable du rayon jazz.
D'accord.
Du rayon musical du jazz. Et puis j'étais par la suite responsable du rayon DVD. Film. Et là, c'était un bonheur. C'était un bonheur.
Et alors donc, c'est cette mise en contact avec la culture, que ce soit la musique ou la littérature, qui vous a orienté, qui vous a fait faire le plongeon dans l'écriture. Et je crois que vous avez commencé par la poésie.
Alors, j'écrivais déjà avant, quand même. J'écrivais déjà avant et je me suis... J'adorais la littérature, j'adorais lire, j'adorais tout lire. Et c'est vrai que la poésie est venue à moi comme une espèce de cheval de Troie. Elle est rentrée comme dans ma littérature. Et j'ai eu la chance, c'est vrai qu'à la maison, on ne lisait pas trop. Mes parents, on ne lisait pas trop. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir un oncle en Espagne, mon oncle, qui m'a initié un peu et qui m'a donné le goût de la lecture et de la poésie espagnole, mais pas que, d'autres auteurs. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a aussi... José Sandoval. Juárez, qui était recteur de l'université de l'école vétérinaire de Léon. Mon mentor.
D'accord. Donc il y avait déjà, je dirais, des dons ou des orientations dans la famille qui ont été transmises.
Ça a été transmis, mais à la base de tout ça, il y avait aussi... Un amour familial dans lequel on a qui nous a nourris et dans lequel on a baigné, quelque chose qui nous a enveloppé, qui nous a éclairé le chemin.
Alors c'est ce chemin éclairé donc qui vous guide et qui continue plutôt à vous amener sur le chemin de la poésie. Et puis, il y a un élément important qui est la musique, le flamenco. Alors, à travers votre goût personnel pour le flamenco et à travers votre frère également.
C'est à la fois la musique en général. Mais le flamenco, c'est une... C'est une musique dans laquelle j'ai fait le grand saut, quoi. Qui m'a nourri et qui continue à me nourrir aujourd'hui. Et aussi grâce et à travers mon frère Bernardo, cette musique-là empreinte de poésie. Empreinte de poésie et d'une force musicale et d'une beauté musicale a été aussi le compas, le tempo de ma vie. Et aujourd'hui encore, être flamenco, c'est un rapport au monde. C'est un rapport au monde, aux gens. C'est un rapport à la vie.
Alors justement, je voudrais préciser à nos auditeurs que vous avez également passé une thèse de doctorat sur le flamenco. Et j'ai retrouvé quelque part une définition que vous donnez du flamenco, et je vais la lire pour les auditeurs. Le flamenco est un art essentiel. Il implique une attitude de vie, un rapport au monde qui me parle, fait d'amour et de rébellion. Et puis, dans la copla flamenca, il faut raconter une histoire en 3 minutes.
C'est ça. Et c'est exactement intéressant. C'est que le flamenco, au départ, c'était que le chant. Il n'y avait pas d'accompagnement musical. Et dans la copla flamenca, la copla, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le couplet flamenco, dans le texte des chansons, il y a cette fulgurance cette fulgurance dans le récit, dans l'expression, qui fait que toute une vie, tout un instant, toute une émotion peut être résumée en 4 couplets. Et c'est cet instant-là qui m'a de suite que j'ai toujours aimé. C'est cette fulgurance du moment et comment ce moment précis peut résumer un sentiment. On n'a pas besoin de... Et ça a formaté un petit peu mon écriture. Je ne suis pas auteur de grandes tirades ou de grandes descriptions ou de grandes envolées lyriques. J'aime être l'auteur de l'instant.
Et nous allons le voir précisément justement dans le livre. Effectivement, vous êtes plutôt... je dirais dans la broderie, dans les formules poétiques, et c'est ça qui porte votre écriture. Gabriel Sandoval, je vous propose une petite pause musicale maintenant.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Y gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, y con él las palabras que pienso y declaro, madre mía. amigo hermano y luz alumbrando en la ruta del alma del que estoy. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Gabriel Sandoval pour son ouvrage « Et maintenant, j'en fais quoi de tout cet amour ?» Gabriel Sandoval, « Gracias a la vida », c'est tout un programme ?
C'est l'essentiel. C'est une chanson qui est aujourd'hui, je crois, universelle, que beaucoup de monde connaît, curieusement et heureusement, et qui dit « Merci à la vie ». Et la traduction, c'est « Merci à la vie de m'avoir donné tout ce qu'elle m'a donné. » Qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Elle m'a d'abord donné deux yeux pour la regarder. Elle m'a redonné pour regarder à la fois les étoiles. Et à chaque refrain revient la même chose. Le premier refrain, elle remercie la vie de m'avoir donné ses deux yeux pour regarder le monde, le ciel, les étoiles et l'homme que j'aime. Merci la vie de m'avoir donné un abécédaire, un son, de pouvoir parler et de pouvoir dire mère, ami, frère. Et puis surtout, de m'avoir fait prendre la route de celui que j'aime. Merci la vie de m'avoir donné de pouvoir écouter, de pouvoir entendre, de pouvoir écouter à la fois les marteaux, les turbines, les aboiements, le murmure de l'eau. Et puis la tendresse de celui que j'aime. Merci la vie de m'avoir donné deux pieds pour pouvoir marcher, même si je suis fatigué, continuer à découvrir, continuer à marcher. Les plages, les déserts, les montagnes, les plaines. Et puis merci de m'avoir donné ces deux pieds pour arriver dans la maison de l'homme que j'aime. Merci la vie de m'avoir aussi donné le rire, de m'avoir donné les pleurs. Comme ça, je peux distinguer une chose de l'autre. Parce que ce sont les deux matériaux qui font ce chant. Votre chant et mon chant. Et merci la vie.
Donc, on sent la profondeur des convictions, du ressenti. Et cette chanson, on l'aime parce qu'on est optimiste, finalement.
Cette chanson, on l'aime parce qu'elle nous ramène à l'instant. Elle nous ramène aussi à la joie et à la conscience de ce qu'on a et ce que ça nous permet d'être.
Et qui, au-delà de ça, permet d'affronter les difficultés.
Bien sûr. Voilà.
Alors, revenons maintenant plus précisément au livre.
Chanson a été écrite par Violeta Parra. Et curieusement, quand tu es aujourd'hui... elle est en espagnol, claro. Y te das cuenta, tu te rends compte combien... alors c'est Bernardo qui la chante, mais elle a été chantée par John Baez aussi, Mercedes Sosa. Et il y a dans ce tempo la connaissance du silence et du tempo du monde. Même si tu ne connais pas le texte, il te remplit d'optimisme, de force. Et c'est ce murmure-là qui fait la force de cette chanson.
C'est la magie de la chanson.
C'est la magie.
Donc, revenons au titre, qui peut paraître original à premier abord. C'est donc « Et maintenant, j'en fais quoi de tout cet amour ?» Ça vient comme un refrain. Dans ce livre, et j'aimerais bien que vous puissiez nous lire justement le paragraphe qui illustre bien le livre et qui est au tout début de l'ouvrage.
Et maintenant, j'en fais quoi de tout cet amour? Je n'en veux pas, moi, de cet amour. Pas maintenant. Pas celui-là. Ni celui-là, ni aucun autre, d'ailleurs. J'ai bien d'autres choses à faire que d'aimer. Et puis, je n'aime pas aimer. Je veux juste jouir de chaque seconde qui passe. Jouir de tout. Là. De suite. Et puis, ça fait mal, l'amour. C'est un saut de l'ange, sans les ailes. Un baiser de soir de carnaval. Avant que ne se déchirent les masques.
Merci beaucoup. Donc c'est une entrée en matière dans ce livre et on découvre tout au long du livre que c'est vraiment le fil conducteur. Alors, la manière dont j'ai ressenti moi le livre, je vais vous le dire et vous allez me dire si vous êtes d'accord. On parle d'amour, mais on parle surtout de manque d'amour. Dans ce livre. Est-ce que c'est la direction que vous aviez voulu donner à cette belle histoire ?
Toute notre vie, on est en manque d'amour. Toute notre vie, même si on est entouré d'amour. Et toute notre vie, on sera en manque d'amour. Mais... Quand il arrive par vague, quand il arrive et qu'on se trouve face à cette immensité d'amour, on a parfois tendance à le rejeter. On a parfois tendance à avoir peur de tant d'amour. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une course effrénée. Non pas de l'amour, mais on est dans l'urgence de l'efficacité, on est dans l'urgence d'être le meilleur, on est dans l'urgence de se dépasser. L'amour ne supporte pas ça. L'amour a besoin de temps. L'amour a besoin de respiration. Et quand on l'a, quand il arrive à nous, même alors qu'on n'en veut plus, alors qu'on se disait... Non, c'est fini. C'est bon. J'ai aimé. Là, actuellement, j'aime. Ça me suffit. Mais on se demande, est-ce qu'on se pose cette question? Est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que j'en fais là? Mais quand on se la pose, cette question, qu'est-ce que j'en fais de cet amour? On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi en faire. Et donc on l'engloutit, on le cache. Et comme tu me disais, là, petit à petit, se forme, de notre adolescence, de notre enfance, jusqu'au fur et à mesure de notre vie, il y a ce manque d'amour que l'on a caché, que l'on a refoulé, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut plus. Et qui, à la finale, te détruit. Te dévore. Parce que, effectivement, notre vie n'est que ça. Notre vie est une recherche perpétuelle d'amour. Perpétuelle.
Et donc, on est devant un paradoxe, c'est-à-dire que on est en recherche tous de l'amour, et quand il arrive, il peut effrayer, il peut faire peur. Est-ce que, à votre avis, on réagit de la même façon quand on a vraiment manqué d'amour, et notamment pendant son enfance, que quand on a eu l'amour qu'il convenait?
Non. Non. Si, enfant, tu as été entouré de cet amour, de tes parents, des tiens, de tes frères, de tes sœurs, si tu l'as connu, cet amour, si tu as été élevé dans cet amour, dans cette empathie, cette bienveillance, tu ne réagiras pas de la même façon, tu ne vas pas prendre le même chemin que celui qui, dès son enfance, a été privé de cet amour, a été violenté, a été soumis, a été... ne prendra pas la même chose. Et le regard ne sera pas le même. Le regard ne sera pas le même. L'héroïne, Angeles, n'aurait certainement pas connu ce destin, n'aurait sûrement pas pris ce chemin si elle avait été entourée d'amour, si elle avait été aimée de ses parents, de ses amis. Malheureusement, elle a été violentée dans son adolescence.
Donc, elle a vécu des conditions particulières qui l'ont amenée à réagir comme ça. Et vous écrivez, et vous la faites parler, « Pourquoi m'avoir dit ça ? Pourquoi m'avoir dit que tu ne me voulais pas ?» s'adressant à sa mère. « Qu'avais-je fait à part venir au monde ?» Et plus loin, l'héroïne déclare « Je veux tatouer ma souffrance à jamais dans ton cœur, toi, ma mère. » Donc, on sent bien que les conséquences du manque d'amour sont très profondes là, et que ça va être très difficile pour elle de s'en défaire.
Ben, elle détermine notre vie. À l'enfance, elle détermine ce que sera notre vie. Si dès l'enfance, tu connais cet amour, Angeles, elle, dès son enfance, on lui dit « Ici, ce n'est pas ta place. » Et moi, je ne t'ai pas voulu. C'est la chose la plus effroyable qu'une mère puisse dire à son enfant. La chose la plus effroyable. Et donc, à partir de là, ta vie, tu te dis, ben, c'est ça l'amour ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce que cet amour existe ? Cet amour maternel ? Est-ce que l'amour existe ?
Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui va la déterminer dans ses réactions, dans son caractère. Et elle va avoir la chance de connaître l'amour. Et elle va être très surprise, finalement. Elle va être dans le refus, peut-être même, on pourrait dire, un peu dans le déni. Et vous écrivez « Parce qu'elle l'aimait d'un amour qui habitait ses jours et ses nuits, cannibale de chair et d'âme. » C'est-à-dire que même si elle n'a pas connu l'amour, si elle n'était pas réceptive, vous dites ça vient comme une grande déferlante et ça l'envahit totalement.
C'est ça qui est puissant et c'est ça qui est fort dans l'amour. C'est que même si tu le veux pas, quand il te frôle, il t'emporte. Même si tu le veux pas. Hein.
Ce qui tendrait à démontrer aussi que, de toute façon, il y a un choc.
Oui.
Il y a un choc. Oui. Alors, dans l'amour, vous associez l'amour, le hasard et les rencontres. À un moment donné, dans le livre, il est écrit « Les rencontres ne sont pas des hasards, seulement des rendez-vous. »
Manqués. Des rendez-vous manqués. Rien n'est la continuité de quelque chose. Tout est un moment fulgurant. J'aime beaucoup la citation de Pessoa qui disait que de toute chose, il n'en resta que trois. Trois certitudes. La certitude que tout allait recommencer. La certitude qu'il fallait continuer. La certitude que ce serait interrompu avant d'être terminé. Et pour cela, il fallait faire de l'interruption un pont. Il fallait faire de la chute un pas de danse. Il fallait faire de la peur un escalier. Il fallait faire du rêve un pont, et de cette recherche, une rencontre. C'est ce que tu disais.
Et cette notion de rencontre, et ce que vous venez de lire, renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, au sujet de la vie, que la vie, quelque part, il faut la prendre comme elle vient, et il faut s'adapter, il faut utiliser les événements pour mieux en profiter.
Il ne faut pas prendre la vie comme elle vient. Il faut être face à la vie telle qu'elle vient.
Ce qui veut dire que face à la vie, on n'est pas inactif. On ne doit pas être inactif.
Voilà. Si tu contemples la rivière, elle ne fera que passer. Si tu plonges dans la rivière, tu pourras y nager.
Et est-ce que quand on n'a que l'amour, on peut faire face à la vie?
Oui.
Je vous propose une seconde pause.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous continuons notre échange sur la vie, le bonheur, avec Gabriel Sandoval. À l'occasion de la parution de son livre, et maintenant, j'en fais quoi de tout cet amour? Donc, quand on n'a que l'amour, on peut donc faire face à la vie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'amour, quand on parle d'amour, on parle du bonheur, naturellement.
Le bonheur n'est pas le même pour tout le monde.
Hein. Oui.
La notion de bonheur n'est pas la même pour tout le monde. Quand j'écoute cette chanson de Brel, quand on n'a que l'amour pour habiller matin, c'est-à-dire le matin, quand tu peux te lever, je pense là, souvent, là, en ce moment, à mes parents, quand ce matin du mois de septembre 62, ils arrivent à Gare Matabiau, et quand ce matin-là, face à, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, il n'avait que l'amour pour habiller ce jour-là. Il n'avait que ça. Et un bout de papier avec une adresse pour voir quelqu'un qui éventuellement leur donnerait un appartement. Comme je t'ai dit, le bonheur, ça dépend de quoi? Ça dépend de cette joie que tu peux avoir. Ça dépend du moment, de la connaissance que tu as de toi.
Et est-ce que reconnaître que on est dans un état de bonheur, est-ce que c'est forcément se contenter de peu?
C'est de savoir ce qui est essentiel.
Alors,
qu'est-ce qui est essentiel dans le bonheur? Est-ce que c'est un bonheur matériel? Est-ce que c'est un bonheur spirituel? Est-ce que c'est un état d'âme? Le bonheur, c'est cette plénitude que tu peux avoir. Là, en ce moment, je me sens heureux, là. Mais c'est un bonheur d'écouter et dans nos échanges de voir qu'il y a un chemin qui se fait.
Et je suis certain que les auditeurs le captent bien. Alors, dans le livre, l'héroïne a une certaine conception du bonheur que l'on écoute.
À vrai dire, elles achetaient peu de choses, juste l'essentiel, leur essentiel. Non pas par faute de moyens, mais par faute de besoins. Elles avaient pris un tout autre chemin. Elles lui avaient trouvé un sens bien loin des convenances et des obligations. Elle n'en parlait jamais. Elle ne l'appelait pas bonheur. Remerciait chaque matin le soleil qui se levait, illuminait la maison, les champs d'oliviers, et rendait grâce à la pluie qui s'invitait en orages impromptus sur ces terres arides qui la buvaient avec volupté.
Donc à chacun finalement son essentiel, et toujours avec peut-être, si ce n'est le doute, l'absence de nécessité de définir le bonheur en tant que tel.
Oui. On n'est pas obligé de se fixer des normes au bonheur. Elles n'existent pas. Le bonheur, il n'y a pas de mode d'emploi. Tu peux être l'homme le plus riche du monde et penser que ça, c'est pour toi, c'est ton bonheur. Mais en fait, le bonheur, c'est un état. C'est une sensation, c'est une émotion, c'est une paix. Une paix intérieure, de te dire « Ahora, cet équilibre, c'est cet équilibre. » C'est pas le déséquilibre, c'est cet équilibre. Cette absence de chute. Et d'entendre les autres. Je vais te raconter juste une petite anecdote que j'ai vue hier. Hier, je prenais le métro, je suis dans le métro, et il y avait deux filles, deux femmes, qui descendent et qui se quittent en prenant le métro. L'une prend la voie B, l'autre était sur le quai A. Elles se regardent d'un quai à l'autre, avec leur portable à la main, bien sûr. Elles se regardent et elles s'envoient un texto. Et j'ai trouvé ce moment, là, il y avait l'équilibre. Ces deux femmes étaient en train de s'aimer et de s'envoyer un message d'amour. Il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de gens autour d'eux. Elles étaient en équilibre. C'est ça le bonheur aussi.
C'est ça le bonheur. Ça peut être ça.
Ça peut être ça
le bonheur.
Pas que ça.
Donc, pour nos auditeurs, vous avez donc, à ce stade de l'émission, je dirais, le décor, l'ambiance est décrite et plantée, l'univers qui de Gabriel Sandoval qui rejaillit de son livre, vous avez pu le saisir. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, Gabriel Sandoval, vous pourriez nous présenter rapidement les deux principaux personnages pour donner quelques indications à nos auditeurs.
L'action se passe dans l'Espagne franquiste dans les années 60. Il faut recontextualiser le temps où ça se passe. Il n'y a finalement que deux personnages essentiels, mais qui en fait sont cinq. Il y a Ángeles, qui est l'héroïne principale, mais qui va avoir d'autres vies, qui aura deux avatars, avec la Flores et la Duquesa. Ces trois vies en une seule sont le personnage principal. Et puis il y a Penélope qui va être fascinée par l'écrivaine, qui va tomber amoureuse de la Flores et qui suivra comme garde du corps la Duquesa dans ses nuits sévillanes. Qui aime-t-elle? Est-ce qu'elle aime Ángeles, l'héroïne? Est-ce qu'elle aime l'écrivaine? Ou est-ce qu'elle aime la duchesse, celle qu'elle va protéger dans ses nuits un peu de vengeance? C'est ça je voulais raconter aussi. Voilà. La multiplicité des vies que l'on a en nous.
Donc, multiplicité des vies, multiplicité des personnages, croisement et rencontre, de hasard ou pas, de ces personnages. C'est toute l'ambiance de ce livre. Et au-delà de ça, on sent que tout ce qu'a vécu ce personnage, ou tout ce qu'ont vécu ces personnages, puisqu'il y en a plusieurs dans le même, finalement, ces personnages sont à la recherche de quelque chose qui va leur permettre de passer au-delà des difficultés qu'ils ont rencontrées dans le passé et, quelque part, de vouloir accepter l'amour auxquels ils ne sont pas habitués. Et donc, c'est là que vous donnez un coup de projecteur sur l'écriture, puisque cette personne est écrivaine et qu'elle définit sa manière d'écrire comme quelque chose qui lui est fort utile. Alors, je vais lire un petit extrait, et après je vous demanderai de lire quelque chose qui a trait au processus de l'écriture. Mais avant, j'ai trouvé un paragraphe qui est très joli et qui s'intitule, en quelque sorte, « Entrer en écriture ». Entrer en écriture, c'est entrer en transe, une transe qu'elle invoquait à chaque fois, une transe qu'elle seule ressentait, que personne ne voyait sauf Pénélope, qui savait, quand elle se rencontrait, en déceler le moindre détail, la moindre vibration, le moindre tremblement de son corps intérieur, le silence face à l'ordinateur. Alors tout de suite, on a un petit peu envie de vous demander si, quand vous écrivez, vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit, mais peut-être avant de répondre, si vous pouvez lire à la suite le paragraphe concernant le processus de l'écriture.
De sa chair sortaient alors les mots qui s'amoncelaient sur son bureau et qui, peu à peu, faute de place, s'écrasaient par terre, dans un désordre d'apocalypse, se questionnant les uns les autres, cherchant leur place et du sens. Elle les regardait, agonisant, écoutant leurs clameurs, ses deux mains agrippées à l'ordinateur, effleurant parfois les touches du clavier en mouvement circulaire pour ne pas se laisser happer par l'anthropophage écran noir.
Donc, est-ce que cette écriture pour le personnage principal, on se demande si ça va l'aider. Donc, naturellement, on ne dévoilera pas la fin du roman. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que cette intensité que vous décrivez chez votre personnage, au moment de l'écriture, au moment de l'action de créer, est-ce que vous êtes dans la même intensité quand vous écrivez vous-même?
En tout cas, je prends énormément de notes. Mais c'est j'écris beaucoup des brides de phrases ou des petits paragraphes très courts. Et je m'inspire. Le moteur de mon écriture sont les gens. En fait, les récits sont autour de moi, les mots sont autour de moi, les histoires que je raconte sont autour de moi. J'aime beaucoup écrire dans les bars. J'écris beaucoup dans les bars. J'écoute. J'écoute les gens. Il y a un côté voyeur, hein. Il y a un côté.
Oui, on pourrait dire, pour bien écrire, il faut savoir bien écouter.
Il faut savoir bien entendre, ouais, surtout. Des fois, tu écoutes les gens et tu n'as pas besoin de prendre des notes. Quand j'écris, je prends juste des notes parce que je suis en train d'écrire en France de quelqu'un. Et puis j'imagine son histoire. Et puis elle te la raconte. Elle te la raconte, son histoire. Elle te la murmure. Et dans ses gestes, dans son regard, tu peux essayer de deviner qui elle est, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle aime, pourquoi elle pleure. Et ça, donc j'écris beaucoup comme ça, je prends des notes, mais après, quand je plonge en écriture, ouais, il y a cet état de, oui, il y a cet état de d'excitation, mais c'est pas la fureur, hein. C'est pas la fureur, quoi. Je suis pas dévoré par les mots que je. Non, ils arrivent.
Ils arrivent. Alors, ils
pourquoi,
arrivent.
Pourquoi?
Voilà. Et alors, on sent. Puisque là, nous allons arriver à la fin de l'émission, ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que donc, s'ils veulent découvrir comment faire face à la vie et faire face à l'amour, ce livre est incontournable. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur la manière dont c'est écrit, avec un style qui est complètement solaire, avec une délicatesse. Gabriel Sandoval, on a l'impression que vous avez fait de la dentelle quand vous avez écrit. Et je cite rapidement quelques petits exemples. Dans ce monde-là, les couleurs étaient souvent obscures et le peintre ne les connaissait pas toutes. Le Guadalquivir coulait dans les veines de Sevilla, chargé de secrets, d'aveux, de serments et de trahisons, mémoire des profondeurs. Et donc, j'encourage beaucoup les auditeurs à lire ce livre, j'allais dire presque deux fois, une fois pour l'histoire et une fois pour le style, c'est un vrai régal. Gabriel Sandoval, une dernière question, et maintenant qu'allez-vous en faire de tout ce succès?
Me remettre à l'ouvrage pour me nourrir d'amour.
Merci beaucoup, c'est ce que nous souhaitons en tout cas. Donc merci à Gabriel Sandoval qui est venu nous présenter son livre « Et maintenant j'en fais quoi de tout cet amour ?» paru aux éditions La Serna. Merci beaucoup à nos auditeurs, merci à Christophe Aubry à la technique. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission, qu'elle est disponible sur toutes les plateformes numériques en podcast et que toutes les semaines, Parole d'auteur est diffusée le mercredi à 10h, suivi d'une première rediffusion le vendredi à 10h.